Bonjour, je suis Yann Verling, je suis vice-président de la région Île-de-France à l'écologie et je suis engagé pour l'environnement depuis une trentaine d'années. Et vous écoutez un nouvel épisode de Concret, le podcast qui met en lumière des solutions pour une écologie positive. Je vous propose de partir à la rencontre d'un faiseur de solutions. Bienvenue, on est parti pour une demi-heure d'échange avec Mohamed Boukatem. Vous êtes directeur et cofondateur d'une association qui s'appelait les pinces à linge et qui dorénavant s'appelle Sneakers. On va peut-être commencer par là. Pourquoi cette association s'appelait les pinces à linge et s'appelle maintenant Sneakers?
Alors, je vais peut-être me présenter. Mohamed Boukatem, directeur et cofondateur d'association les pinces à linge. Les pinces à linge qui a été créé il y a 4 ans avec ma femme Aurélie. On s'était engagé sur une démarche de revalorisation de textile et très rapidement on s'est orienté sur la basket. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que je vais vous expliquer pourquoi on a fait ce switch. D'abord parce que la basket aujourd'hui est un déchet non recyclé, non réemployé, plus de 400 millions de paires de baskets partent à la poubelle. Et du coup, lorsqu'on a pris cette démarche de revaloriser la basket, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'acteur à ce niveau-là et que la sneakers n'était pas forcément réemployée, revalorisée. Et ça prenait sens de justement changer de nom pour faire comprendre à l'ensemble de nos bénévoles, nos donateurs, les partenaires, qu'on prenait ce chemin de la basket, la sneakers.
Bon, c'est vrai que c'est plus clair que pince à linge quand on veut parler de basket, parce que pince à linge, basket, on ne fait pas le lien. Sneakers, oui, sachant qu'il y a un petit jeu de mots.
Exactement, donc c'est le sneak de sneakers, le mot. Le cœur, bien sûr, parce qu'on a une démarche solidaire et c'est comme ça qu'est née l'association. Et le Z pour la génération Z, qui sont les plus gros consommateurs de basket aujourd'hui en France.
Alors, on va parler donc de ce que vous faites concrètement là. Aujourd'hui, vous êtes basé où ?
Aujourd'hui, on est basé en région Île-de-France, du coup à Noisy-le-Grand sur notre siège social et à Champs-sur-Marne sur le développement d'activités. Champs-sur-Marne dans le 77 en Seine-et-Marne.
D'accord. Et alors, on va revenir un petit peu sur vous. Vous êtes déjà présenté un peu brièvement, mais vous êtes qui ? En fait, on vient pas de nulle part quand on crée ce genre de choses. Vous avez été acteur dans le domaine de l'économie circulaire, vous avez fabriqué des baskets. Qui êtes-vous?
Voilà. Je suis rien de tout ça, je suis vraiment tombé dedans. Sur mon avis, c'est un peu beaucoup le destin. Qui je suis déjà un entrepreneur à la base dans fitness. Donc ça peut-être un petit lien. Ah, hein. Voilà. J'avais des salles de sport, de fitness, d'une franchise. Il y a un peu plus de 4 ans. Et malheureusement, le Covid est passé par là. Et les salles de sport étaient. Le modèle de la salle de sport ciblait les publics familiaux. Et malheureusement, ce public-là a évité les salles de sport pendant le Covid et n'est pas revenu tout de suite. Donc, très compliqué. Et les salles de fitness ont fermé. Et du coup, c'est comme ça que le projet est né sur l'associatif. Mais disons que j'étais entrepreneur. Alors, pas entrepreneur social au départ, même si. Voilà, j'ai toujours été dans le social durant ma carrière d'employé, de salarié. J'ai été animateur dans les hôpitaux en pédopsie, j'ai fait de l'insertion, j'ai fait intervenant sportif dans les écoles. Donc j'ai toujours été dans les quartiers prioritaires, donc j'ai toujours eu cette démarche sociale. Et je me cherchais en fait sur un projet qui pourrait avoir, répondre à les deux besoins, quoi, le besoin d'entreprendre et le besoin de se sentir utile.
Ok, on va peut-être revenir maintenant sur le projet lui-même. Donc il est né quand ? Quand est-ce que vous avez démarré ça ?
Oui, donc le projet est né en 2020, juste après la période de confinement du Covid. Même pendant la période, on était... il y avait une grosse problématique de collecte avec les personnes les plus engagées en fait sur de la collecte, souvent les personnes... à la retraite ou et c'était aussi les plus touchés par la maladie à l'époque. Et du coup, pas mal d'associations galéraient à collecter des denrées alimentaires, mais aussi des textiles, tout plein de choses. Et nous, on avait une salle de fitness qui était fermée, du coup, à cause du confinement. Et en fait, on a mis à disposition notre base de données, d'une certaine manière. On a sollicité nos clients pour collecter. Et les deux premiers dimanches, on a collecté, pour 3-4 000 euros de denrées alimentaires. Et le dernier dimanche, on s'est dit, allez, on va collecter du textile. Et là, on a constaté le drame que c'était. La salle de sport était remplie vraiment, 350 mètres carrés de textile, il y en avait partout. En plus, je crois qu'à l'époque, les boîtes de collecte, les conteneurs avaient fermé parce que pour des raisons d'hygiène. Et là, on s'est rendu compte du potentiel. Sur 10 vêtements, 8 étaient réutilisables, 3 étaient étiquetés. Parce que justement, tout le monde consommait, les boutiques physiques étaient fermées et tout le monde passait par Internet pour acheter, sauf que la taille ne va pas.
Voilà, quand vous dites étiqueté, ça veut dire que les gens n'avaient même pas porté ou utilisé le bien qu'ils avaient acheté.
Pas porté,
il était neuf, quoi.
Exactement. Mmh. Et du coup, bon, la situation faisait que, mais en avançant sur le projet, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait aussi de la surconsommation, il ne faut pas se le cacher, avec des plateformes internet, on achète, des fois on oublie de renvoyer, et puis ça reste dans l'armoire, puis à un moment on veut s'en débarrasser, puis voilà, les associations peuvent récupérer ou pas, des fois ça part aussi en déchets, donc voilà, c'est une vraie catastrophe.
Et quand on a préparé ce podcast, vous m'avez donné des chiffres qui m'ont impressionné, c'est que aujourd'hui, quand le volume de chaussures qui sont vendues en France, la majorité, c'est des baskets.
Oui,
ça vous m'avez dit l'autre jour.
On a passé depuis quelques années, hein, à peine, hein, depuis 2020, je crois, on y a sur 10 paires de chaussures vendues, 6 sont des baskets.
Oui, c'est énorme.
Ça s'est démocratisé, la basket est devenue un élément indispensable de nos armoires. Et je pense qu'on est très confort, beaucoup de gens préfèrent. Moi, j'ai fait des conférences dans des lieux improbables, hein, la banque par exemple. J'ai vu sur 10 banquiers, 8 étaient en basket. Quoi.
Oui, improbable. Mais ça, c'est vrai que c'est un phénomène de mode un petit peu aussi qui s'est répandu, où on voit à la défense des gars en costume, cravate, qui ont au pied des baskets et qui n'ont plus des chaussures, comme on dit, de ville. Quoi.
Dernièrement, il y a même des mariages qui se font en basket, parce que voilà, plus confort, c'est le style aussi, ça s'est démocratisé hein, concrètement, les baskets. Ouais.
Bon, on ne va pas juger le côté esthétique ou mode de tout ça, ça n'est pas le sujet. Par contre, ce qui est un sujet d'un point de vue environnemental, c'est que, à la différence peut-être de chaussures qu'on peut réparer chez un cordonnier, ouais, bah, la basket, elle ne se répare pas. C'est ça votre constat aussi.
Alors, c'est un gros problème. Aujourd'hui, les baskets, c'est des matériaux, cuir, colle, textile, caoutchouc, qui entremêlés, donc quand on crée une basket et qu'on commence à réfléchir à sa fin de vie, c'est au niveau de la fin de vie que ça devient complexe parce que pour pouvoir recycler, il faut dissocier les matériaux. Et il y a un travail manuel indispensable. Aujourd'hui, on n'arrive pas, on est en train de travailler sur pas mal de process, pas mal de grosses industries, mais il y a un travail manuel nécessaire pour dissocier les matériaux et les recycler. Donc, à part bon, certains acteurs qui vont broyer des chaussures pour en faire des terrains de jeu, mais ce n'est pas réellement du recyclage. Recycler, c'est aussi garder dans le matériau, dans sa réelle
réemployer utilité. Pour ce que c'est-à-dire refaire exactement. D'une basket une nouvelle basket.
Ça serait une solution aussi. Mmh. Je pense qu'il y a pas mal de perspectives, d'opportunités, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est un déchet qui est très difficilement recyclable parce que composé de pas mal de matériaux. Et d'ailleurs, quand on va regarder un peu leur fin de vie, pas mal d'opérateurs de tri préfèrent ne pas les garder et l'envoyer à l'export. Et pour ceux qui restent, concrètement, tout ne peut même pas être incinéré parce que incinéré, c'est des gaz nocifs et on est principalement les baskets, on va aller les enterrer pour pas créer ces gaz nocifs, justement.
Vous me disiez que voilà, il y a un sujet de formation des cordonniers, parce que aujourd'hui, quand on va amener une paire de baskets chez un cordonnier, on a beaucoup de chance pour qu'il nous renvoie en disant là, je peux plus rien faire, je peux pas la réparer. Or, c'est juste une question de savoir-faire. Il y a beaucoup de choses réparables sur une basket, non? C'est ce que vous me disiez.
Exactement. Aujourd'hui, malheureusement, le métier de cordonnier, il se meurt, mais de moins en moins de jeunes sont intéressés par le métier. Ça se transmet de moins en moins. Et le métier ne s'est pas forcément mis à jour. C'est-à-dire que, comme la basket se vend beaucoup plus, et que ce n'était pas le cas avant, le métier de cordonnier, à la base, travaille le cuir, des matériaux vraiment nobles, et il va faire de la prestation vraiment un peu premium. Et du coup, l'adaptation ne s'est pas faite. En tout cas, sur les référentiels métiers, il n'y a pas eu cette volonté de switcher et d'incorporer tout ce qui pourrait être nouveau process sur la basket. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on s'est rendu compte, nous, en faisant de l'ingénierie de formation, que des choses toutes simples, hein, type la basket qui va s'oxyder, donc le jaunissement qu'on voit souvent, on dit que nos baskets ont vieilli, beaucoup de baskets finissent en déchetterie à cause de ce jaunissement prématurée, alors que ce n'est que de l'oxydation et que ça se récupère. Vous viendrez à l'atelier un jour, c'est 2 minutes d'application d'un produit un peu comme l'oxygéné, et après c'est mise au soleil, devant le soleil, les rayons du soleil, les UV qui vont permettre de reblanchir la basket. Et ça, c'est vraiment un process très simple. Ça, ce n'est pas quelque chose que les cordonniers apprennent. Il y a pas mal de choses comme ça qui ne sont pas encore incluses dans le référentiel, mais on espère y travailler et peut-être changer un peu la donne.
Alors, vous évoquez une corde de votre arc qui est la formation. Aujourd'hui, c'est quoi justement votre offre de formation? Vous avez créé un module de formation, vous le proposez à qui? Comment est-ce que ça finit par arriver jusqu'au cordonnier, cette offre de formation?
Alors, ce qu'on va proposer aujourd'hui, c'est une formation Calliope déjà, qualifiante, qui permettra d'avoir les compétences, savoir-faire sur nettoyage des infections déjà. Parce qu'aujourd'hui, oui, la basket peut se nettoyer. Alors, pas la machine à laver, on peut, mais c'est pas forcément tip-top parce que voilà, la machine à laver va endommager toute la partie semelle intermédiaire, donc c'est complexe. Mais on peut travailler avec, par exemple, tout ce qui est steamer, tout ce qui est vapeur, ça désinfecte. On va travailler avec les UV aussi, ça désinfecte. L'ozone aussi, on est en train de faire des tests sur l'ozone, ça peut désinfecter. Donc ça, c'est des process que les cordonniers n'ont pas forcément. Ensuite, il y a la partie rénovation. Aujourd'hui, on peut faire de la peinture, on peut faire... Nous, on a changé des lacets, par exemple, en changeant juste les embouts. Il y a pas mal de degrés de réparation qu'on peut incorporer dans une formation qu'ont les cordonniers ou pas, mais qui pourraient venir compléter leur compétences et leur formation.
Et donc aujourd'hui, très concrètement, vous avez, vous, un atelier de formation, un des deux sites que vous avez mentionné tout à l'heure?
Alors, on a créé un atelier, d'ailleurs grâce à la région Île-de-France qui nous a financé.
Merci de le dire.
Dans le cadre du dispositif zéro déchet et économie circulaire, on a pu rénover nos locaux de 400 m² à Champs-sur-Marne, et du coup, on en a profité pour réagencer le local, et on accueille un atelier de 70 m² avec 12 postes sur du nettoyage des infections et 8 postes sur de la rénovation. Des ateliers qui peuvent accueillir justement des stagiaires en formation. On devrait ouvrir cette formation-là pas avant septembre, mais aujourd'hui, on accueille des salariés en insertion qui sont déjà formés sur cette formation de rénovateurs de basket.
En septembre, donc, vous aurez la capacité d'accueillir des professionnels qui voudront se former, par exemple un cordonnier. Donc, vous savez déjà, là, parce que peut-être qu'on va être écouté par des cordonniers, sait-on jamais. Moi, je suis cordonnier, par exemple. C'est pas vrai, hein, je suis pas cordonnier. Mais imaginons, bien que j'ai fait un stage d'été chez un cordonnier, donc je sais réparer des chaussures. Mais que des chaussures, pas des baskets. Bon, bref. Comment je fais si je suis cordonnier pour avoir accès à votre formation? Parce que je voudrais m'engouffrer dans cette niche, évidemment porteuse, de la réparation de baskets. À partir de septembre, comment je fais?
Déjà, je pense que notre formation sera peut-être cataloguée dans tout ce qui est formation au niveau du Pôle emploi, avec qui on travaille, France Travail, pardon, avec qui on travaille régulièrement, qui nous oriente des salariés d'insertion. Ça peut être aussi des cordonniers qui pourraient vouloir monter en compétences pour pouvoir développer leur business. Donc, il y aura des auto-entrepreneurs, souvent les cordonniers sont des auto-entrepreneurs. Il y a aussi, il y a un gros intérêt, les autres associations qui collectent des déchets et qui sont très intéressés par la basket. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir venir, acquérir cette compétence-là pour l'apporter dans leur structure, insertion ou pas d'ailleurs. Le but, c'est de travailler avec pas mal de collaborateurs. Nous, on est incubé au sein de l'AFPA, à Champs-sur-Marne. C'est quand même 5 hectares, je crois, de alloués à la formation. Donc, aussi, vont nous orienter des cordonniers qui pourraient se former sur la cordonnerie avec l'AFPA et venir compléter avec notre formation Calliope, où il y a pas mal de perspectives de collaboration. Ils ont un public très éloigné de l'emploi. Ils peuvent très bien intégrer une formation chez nous qui serait financée par soit la région, soit par France Travail, et qui pourrait leur permettre de se lancer à leur compte ou d'intégrer pas mal de perspectives d'emploi, parce que un jour ou l'autre, les courir, les JD Sport, les Decathlon, les Snipes, sans faire de publicité, les distributeurs de baskets vont devoir aussi proposer ce type de prestations-là. Parce que vendre des baskets, oui, mais il y a préparer, pourquoi pas, quoi. Même nettoyer, désinfecter, des fois, ça peut être
intéressant. D'autant plus que, de mémoire, on est maintenant dans un... La basket fait partie de ce qu'on appelle un produit soumis à la responsabilité élargie des producteurs.
Oui.
Donc il y a un éco-organisme qui est censé gérer ça. C'est
C'est
ReFashion,
ReFashion,
c'est
c'est
ça?
ça.
C'est donc la même chose que pour le textile.
Exactement.
Et comme ils ont des obligations de réemploi, vous avez là une possibilité de pouvoir aller chercher le partenariat avec ReFashion. C'est quelque chose qui est déjà dans votre.
C'est déjà le cas, ouais. Ah, du coup, on est agréé conventionné ReFashion depuis un an et demi, je crois. Donc, on est à DPAV, hein, pour l'apport volontaire. On participe aussi à pas mal d'événements avec ReFashion, qui on a fait un dernièrement avec la région d'ailleurs, qui s'appelle le Défi ReFashion. On est parti collecter les baskets au sein de lycées, donc il y a un concours entre plusieurs lycées parisiens. Et nous, on a pu intervenir sur la journée de lancement pour sensibiliser les jeunes au travers de la basket, ce support qui est la basket qui plaît énormément, c'est culturel, hein, et on a fait passer des messages sur le traitement des déchets, le réemploi, la réparation, la rénovation, et ça a été très bien accueilli d'ailleurs.
Bon, on a dit, voilà, les professionnels demain, ils auront accès à une formation chez vous. J'espère que vous allez faire des petits, que dans la France tout entière, il y aura des lieux pour se former quand on est cordonnier, et les moyens de se former pour les professionnels et les commerçants. Il y a des systèmes de formation, et de financement surtout de la formation qui leur sont accessibles puisqu'ils cotisent à ça. Moi, j'avais envie d'aborder un autre sujet dont on avait aussi parlé en préparation de cette émission, qui était l'aspect psychologique. Parce que vous m'avez dit, d'abord, collecter, c'est pas si facile. Voilà, les gens ne considèrent pas forcément la basket comme un produit qui a une seconde vie possible. Pour eux, c'est pas. Vous allez en parler, d'expliquer. Et puis, l'autre versant, c'est d'acquérir une basket de seconde main, c'est-à-dire qui a été portée par quelqu'un d'autre. Donc, ces deux aspects, comment vous y répondez? Et est-ce que vous avez des anecdotes à nous raconter là-dessus?
Alors déjà, il faut savoir que c'est vrai que nous, depuis qu'on a lancé ce projet sur la collecte de baskets, on galère, hein, on va pas se cacher. Aujourd'hui, on a une double enjeu, quoi. C'est pas que informer pour collecter, c'est sensibiliser et informer. Parce qu'aujourd'hui, plus de 90% de nos baskets partent à la poubelle. Même parler de chaussures, hein, tout part sur les déchets ménagers. Et par rapport, enfin, si on fait la comparaison avec le textile a tendance, on essaie de le faire revivre dans la famille, on essaie de trouver une association, on essaie de peut-être le revendre en seconde main. La basket, ce qui est très bloquant, c'est l'hygiène. Aujourd'hui, on a tendance à avoir du mal à la donner parce que la basket, ben, voilà, j'entends souvent des mots genre champignons, hygiène, enfin, odeur, toutes ces choses-là, alors que ça reste un produit qui est, bon, je vous inviterai dans l'atelier, mais qu'on peut désinfecter, nettoyer et qu'on peut remettre en état. Donc il y a vraiment cette problématique de faire comprendre aux donateurs, aux citoyens, aux habitants de la région Île-de-France, français, qu'il y a un potentiel dans chaque basket. Et souvent, ce qu'on nous dit, c'est, mais attendez, il y a un trou là, il y a une déchirure là, vous allez quand même la reprendre. Oui, parce que on ne peut pas vous expliquer jusqu'où on peut aller en termes de potentiel de rénovation sur la basket. Donc donnez-nous, on fera le choix d'orienter en fonction du potentiel de rénovation. Mais donnez-nous tout. Et on se débrouillera, vous inquiétez pas. Mais déjà, si on arrive à informer globalement que la basket peut être réemployée, c'est déjà une victoire. Et c'est vrai que le même questionnement va se poser sur la revente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on ouvre une boutique, du coup, en collaboration avec la ville de Paris, dans le 11e arrondissement. Et en fait, on va tester le modèle en réel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on collecte, on répare, on rénove. On redistribue une grosse partie, il faut le savoir, hein, notre démarche solidaire, c'est plus de 6 000 paires de baskets qui ont été redistribuées là, en 2024. On en a vendu 2 500, entre 2 500 et 3 000 l'année dernière. On a pu tester vraiment sur une petite boutique de 12 mètres carrés. Et là, ça y est, les tests sont plutôt probants, donc on y va. On essaye sur Paris, sur la rue de Charonne, donc avec un vrai engagement sur l'économie circulaire sur ce territoire-là. Donc on va voir comment est accueilli le projet, mais on a bon espoir dialoguer, discuter avec les habitants, voir comment ils accueillent le projet, quels sont leurs ressentis, comment ils vont réagir, sachant que bon, nos baskets, concrètement, quand vous les voyez, on a très peu de personnes arrivent à faire la différence entre une neuve et une seconde main, en tout cas sur ce qu'on propose nous. D'ailleurs, là, sur la boutique, on va faire un vrai test global en proposant des reventes par grade. C'est-à-dire que comme vos téléphones qui se vendent en grade A, grade B, grade C, donc c'est des grades qui permettent de savoir très bien, assez bien, passable. Et en fait, on veut vraiment tester globalement le projet. Pour l'anecdote, on avait déjà fait ça en boutique à Champs-sur-Marne. On avait vendu des baskets, donc très bien rénovées, en grade A. Et on avait laissé une petite armoire de baskets pour enfants en taille du 25 au 33, je crois. Et on avait tout mis à 5 euros, je crois, quelque chose comme ça. On avait fait plus de ventes sur les baskets non nettoyées, non désinfectées et enfants que sur les baskets classiques. Et quand on leur posait la question, parce que c'est un sondage, hein, on disait, mais mes enfants grandissent vite, vous les nettoyez, mais demain, elles sont sales. Et en fait, voilà, moi, ça m'intéresse, c'est de la marque, donc 5 euros, je prends. Les comportements changent, ça, c'est sûr. Je pense que la seconde main s'est démocratisée, c'est très bon, du coup, pour ceux qui portent des projets d'économie circulaire ou de SS. Et du coup, c'est vrai que, voilà, on a hâte de tester ce modèle et de casser un petit peu ces blocages, et voir où ce qu'on peut aller sur de la seconde main basket reconditionnée.
Ce qui est utile d'ailleurs dans ce genre de test, parce que c'est vrai qu'a priori on peut se dire on est face à une basket dont on sait que elle a été portée par quelqu'un d'autre, on peut avoir une appréhension, donc ça va vous permettre de vérifier quels sont les arguments, quelles sont les réponses à apporter pour peaufiner votre discours, voilà. Et donc là, la boutique dont vous parlez, il y en a déjà une
c'est une test à Champs-sur-Marne.
À Champs-sur-Marne. Là, il y en aura une bientôt dans le 11e arrondissement, c'est ça ? C'est pas encore le cas. Mais à Champs-sur-Marne, justement, qu'est-ce que les gens disaient quand. Alors, vous avez dit, ils ont préféré acheter les petites chaussures pour les enfants parce que ça part vite et c'est pas très important. Par contre, pour des chaussures adultes, là, vous avez eu des réactions, des gens ont acheté. Et comment. Ça demande un effort ou est-ce que. Au fond, les arguments que vous avez entendus étaient surprenants, ou les gens ont mis leur nez dans la fouette chaussure. Enfin, comment ça s'est passé concrètement?
Du coup, là, sur cette ville-là, Champs-sur-Marne, on a attiré plutôt un public qui souhaite faire des économies. C'est vrai qu'il y a eu une grosse période d'inflation sur les tarifs. La basket, en prix moyen, c'est 100 euros. Alors, quand vous avez des enfants et qu'ils veulent les dernières paires de baskets, c'est plus du 150-200 euros que du 100 euros. Quand on a des familles de 3-4 enfants, ça va très vite. La basket, elle vit en moyenne en France 6 mois. Donc, faites le budget, ça peut coûter la moitié d'un loyer annuel, quoi. Donc, ça peut être hyper important dans les charges liées à la vie de ces familles-là. Et quand ils viennent sur la structure, ils constatent une solution. C'est acheter 3 paires pour le prix d'une aussi. Donc, ils vont venir avec... on sait très bien aujourd'hui en France que quand on veut être prêt pour la rentrée, il faut une paire pour tous les jours, une paire pour le sport, une paire pour la gym. Enfin, ça va plutôt vite en consommation de basket. Et du coup, c'est un coût assez important. Et venir dans une boutique de seconde main, c'est faire des économies. C'est une consommation alternative et responsable. Donc du coup, je pense que ça... En tout cas, pour la plupart des acheteurs, des consommateurs, il y a cette démarche d'économie, et puis derrière, il y a une prise de conscience sur la partie écologique. C'est-à-dire que quand on vient dans une boutique, on ne peut pas faire sans. C'est-à-dire que vous arrivez, il y a bien sûr les baskets, mais il y a les affiches qui nous parlent de ce parcours de la basket, de sa vie, de son histoire et des enjeux qui entourent ce parcours-là, donc les enjeux écologiques, sociaux, voilà, il y a pas mal de choses. Donc on n'achète pas qu'une basket qui a été reconditionnée, on achète une histoire, on soutient aussi l'insertion par cet achat, un peu comme peut faire le relais. Donc ça crée un emploi aussi quand on achète régulièrement dans nos boutiques, en tout cas.
Ce qui est très intéressant dans ce que vous venez de dire, c'est que je pense toujours à ce slogan-là qu'on entend souvent sur l'écologie, enfin les griefs qu'on fait à l'écologie, c'est... on oppose fin du mois et fin du monde, et ben là, vous les associez, d'une certaine manière. Puisque les gens qui viennent vous voir, ils ont un argument financier. Il faut que faire des économies pour son budget global. Et donc là, il y a une sacrée économie qui est faite. Et en même temps, on sert un sujet qui est l'économie circulaire et donc la réduction des consommations de ressources pour faire des baskets neuves qu'on jette en plus très vite, etc. Donc, parfait. Bon, ben, voilà. Moi, je voulais simplement vous demander, là, parce qu'on va arriver tout doucement à la fin de ce podcast, là, vos perspectives de développement, comment ça va se passer pour vous? Donc, vous avez parlé à l'instant d'une boutique qui va ouvrir pour de la vente de baskets de seconde main dans le 11e arrondissement. Comment vous voyez la suite des choses? Et pardon si vous posez cette question, est-ce qu'il y a un modèle économique?
Ah, c'est une super question. J'essaierai de finir sur cette question-là qui est hyper pertinente. Déjà, les perspectives pour 2025, donc il y a cette création de boutique, bien sûr, sur Paris, qui va nous apporter pas mal de réponses. Il y a la volonté de passer Calliope et d'ouvrir à la formation. D'ailleurs, des gros enjeux, je sais qu'on reçoit Veja dans moins de 15 jours. Je sais qu'il y a pas mal de gros industriels peut-être qui vont essayer de se positionner et comprendre un petit peu comment fonctionne la réparation. Est-ce qu'il y a vraiment un potentiel? Est-ce que ça peut être une solution pour pas mal d'acteurs de la distribution? Ça va être... vraie question. Il y a aussi une extension. On passe de 400 mètres à 800 mètres carrés. On a réussi à avoir des fonds privés, de fondations pour pouvoir s'agrandir parce que plus on avance, plus on collecte de baskets et plus il va falloir développer. On a intégré dernièrement la réparation. Avant, on faisait que de la rénovation, donc rénovation, peinture, teinture, déjaunissement et toutes les petites réparations. Mais là, on passe vraiment à de la cordonnerie pure. Donc, on va faire du ressemelage, on va faire pas mal de tests. On pourra faire aussi de la transformation. Pourquoi pas récupérer les logos pour en faire des sacs à main ou des bananes. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses à faire, de upcycling. Donc, il y a pas mal de projections. Il y a toujours ce parcours de collecte qu'on essaie de construire différemment que les autres acteurs de la collecte. Nous, depuis le départ, on construit notre parcours de collecte dans les établissements scolaires. Et c'est hyper important pour nous parce que on ne conçoit pas de collecter sans sensibiliser les personnes à notre démarche. Et je pense qu'avec la basket, on a trouvé vraiment le public qui va pouvoir parler autant à eux-mêmes, les jeunes, 12-25, qu'à leurs parents. Voilà les perspectives pour 2025.
Très bien.
Et la question sur le modèle économique,
le modèle économique. Ouais.
On y croit réellement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un modèle qui est énormément subventionné, qui dépend aussi de ce modèle en insertion. On veut continuer en insertion, mais on veut aussi tester le modèle sur du global. Une dernière chose est arrivée à nos oreilles dernièrement, on est en train de revoir le modèle. On voudrait intégrer, on parle beaucoup de consigner un peu les éléments pour pouvoir accompagner leur fin de vie. Et nous, on est persuadés que sur la basket, on pourrait lancer un modèle en location. Au lieu de vendre, louer. Et notre force, c'est quoi? C'est la réparation. Donc, trouver une basket perpétuellement réparable. Ou en tout cas, plus que ce qui se fait normalement avec une paire de baskets. Et ça, c'est un peu notre idéal. Donc, on va tester un petit peu la location, voir les retours des clients. Ça, c'est peut-être des économies aussi. Et voir potentiellement si ce modèle peut être viable et sortir de ce modèle un peu trop subventionné qui d'ailleurs en ce moment c'est tellement instable qu'on ne sait jamais à quelle sauce on va être mangé parce que de moins en moins de subventions, que ce soit sur l'insertion, que ce soit sur... Il y a pas mal de coupes budgétaires, on le sait. Donc il est important qu'on se rende un peu autonome au niveau du modèle économique. Et en plus il y a des perspectives sur la basket, donc avançons et voyons ce que ça va donner.
Vous avez... bien répondre. De toute façon, la région Île-de-France, elle vous a aidé, mais c'est vrai que beaucoup des aides, il y a des aides qu'on sait, on est obligé de les renouveler parce qu'il n'y a pas de modèle économique, mais il faut quand même être présent. Et puis, il y a des choses qu'on impulse, qu'on aide pour que vous trouviez votre propre envol. Et c'est assez important qu'on se pose cette question, évidemment, que sur un certain nombre de secteurs, notre impulsion finisse par avoir un effet d'autonomie de votre activité. On peut le souhaiter, peut-être que vous venez d'inventer la basket éternelle, on verra si ça va marcher.
Voilà. C'est top.
Voilà, vous avez écouté un nouvel épisode de Concret, le podcast qui met en lumière des solutions pour une écologie positive. Nous étions avec Mohamed Boukatem de l'association qui s'appelle dorénavant Sneakers. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Merci de votre écoute.